RFI.
Il est 9h à Port-au-Prince, 8h à Caracas. Vous écoutez RFI. Direction donc les Amériques pour la dernière partie de RFI Midi. En Haïti, des combats ont fait rage autour de la ville de Kainskoff. Il s'agit d'une localité stratégique proche de Port-au-Prince, Haïti toujours, où Joe Biden avait mis en place le programme Parole humanitaire qui a permis à plus de 200 000 Haïtiens d'entrer légalement sur le sol américain. À présent, Donald Trump menace d'annuler le statut de ces migrants et de les expulser en Haïti. Et puis l'actualité des Outre-mer avec vous, Benoît Ferrand. Bien avant, les Espagnols, les peuples premiers de la Caraïbe auraient été confrontés à des envahisseurs venus de l'Amérique du Sud.
C'est ce qu'affirment en tout cas des scientifiques américains dans une récente étude. Explication à suivre de notre confrère Christelle Martial de la Première Guadeloupe.
Et tout de suite, on retrouve le journal de Karine Bélicha. Bonjour Karine.
Bonjour Grégoire, bonjour à tous.
Et on commence donc ce journal par une question. Comment faire entendre sa voix face à Donald Trump et Vladimir Poutine?
Après la décision américaine de négocier en tête à tête avec le Kremlin, sans eux, les dirigeants européens ont décidé de se réunir à Paris aujourd'hui. Et il y a urgence. Le sommet américano-russe aura lieu dès demain à Riyad. Un sommet de réconciliation où l'avenir de l'Ukraine pourrait se jouer. Une dizaine de dirigeants de pays de l'Union européenne et de l'OTAN entendent bien établir une réponse commune face aux défis lancés par Donald Trump. Le Royaume-Uni est représenté à Paris aux côtés des 27. La question de l'envoi de troupes en Ukraine est débattue. Selon Sylvie Goulard, l'ancienne eurodéputée, membre du conseil de la fondation de la conférence de Munich, le discours agressif de l'administration Trump doit être un électrochoc pour l'Europe.
J'espère qu'elle se réveille surtout tout court. Sur le plan de la politique étrangère et de la défense, sans faire de mauvaises polémiques, et même si beaucoup de gens y travaillent activement, je crois que l'Europe ne pèse pas son poids dans le monde et qu'elle ne s'est pas organisée pour peser. Le monde a changé et tous les pays jeunes et dynamiques, parfois agressifs qui nous entourent, ne vont pas tolérer une horde d'Européens. Ils voudront avoir des interlocuteurs extrêmement identifiés et capables ensuite, par exemple, s'agissant de l'Ukraine, d'aligner des garanties de sécurité. J'étais dans la salle à Munich quand vous entendez le discours du vice-président américain, mais quand vous entendez aussi et surtout les appels à l'aide de M. Zelensky qui nous dit que cette guerre n'est pas la guerre de l'Ukraine, mais que c'est la guerre de la Russie contre l'Europe, la Russie de Vladimir Poutine, évidemment, pas tous les Russes, eh bien, je crois qu'il faut entendre.
L'ancienne eurodéputée Sylvie Goulard, invitée d'RFI ce matin.
Le sommet États-Unis-Russie s'annonce, lui, sous les meilleurs auspices.
Les deux pays veulent acter un nouveau départ, gage de bonne volonté. Le Kremlin a même annoncé la libération d'un Américain arrêté à l'aéroport de Moscou pour avoir transporté du cannabis. Tenu à l'écart, le président ukrainien Volodymyr Zelensky va se rendre en Arabie Saoudite mercredi. Au lendemain de la rencontre américano-russe, pas question, dit le président ukrainien, de reconnaître un accord conclu sans lui.
Et au Proche-Orient à présent, après ses entretiens avec le chef de la diplomatie américaine qui a rejoint Riyad, Benjamin Netanyahou a réuni son cabinet de sécurité.
Une réunion pour aborder la nouvelle phase du cessez-le-feu à Gaza. Cette étape est un nouveau défi titanesque puisqu'il prévoit le retour de tous les otages et la fin définitive de la guerre. Une équipe de négociateurs est aussi envoyée au Caire. À Jérusalem, Michel Paul.
Après une conversation entre le premier ministre israélien et l'émissaire américain pour le Proche-Orient, Steve Witkoff, une délégation israélienne se rend aujourd'hui dans la capitale égyptienne. Il faut le souligner, son mandat est réduit à la poursuite de la mise en œuvre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu. Il s'agit notamment de l'entrée dans la bande de Gaza de quelque 60 000 maisons mobiles et de matériel de terrassement, en échange de quoi Israël veut obtenir la libération de 6 otages dans les tout prochains jours. Ce soir, réunion du cabinet de sécurité à Tel Aviv pour discuter de la seconde phase de l'accord. À l'issue de ce débat, de nouvelles instructions pourraient être envoyées aux négociateurs israéliens pour progresser vers une nouvelle étape. Rappelons que hier, Benjamin Netanyahou a déclaré à l'issue de sa rencontre avec Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qu'Israël et les États-Unis avaient une stratégie commune dont les détails ne pouvaient pas tous être divulgués publiquement. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Le cabinet de sécurité qui se réunit alors qu'au Liban, un commandant du Hamas palestinien a été tué dans une frappe israélienne sur une voiture à Saïda, dans le sud du pays. Une attaque qui intervient à la veille de la date fixée pour le retrait israélien après le cessez-le-feu conclu fin novembre. D'anciens otages avaient reconnu Mehdi Nemmouch après la tuerie du musée juif de Bruxelles. Pas de doute pour eux, il s'agissait de leur geôlier en Syrie. Le procès de 5 djihadistes s'est ouvert ce matin à Paris et Mehdi Nemmouch a nié d'emblée avoir séquestré des otages, dont 4 journalistes français. Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres avaient été enlevés, les uns à Alep, les autres à Raqqa. Ils n'ont été libérés que près d'un an plus tard, après des mois de violences physiques et psychologique.
Alors que les États-Unis se tournent le dos à leurs engagements en matière d'environnement, la Chine continue de se présenter comme étant le bon élève.
Et continue d'innover. Pékin a déclaré qu'il avait construit le premier navire offshore de production et de stockage de pétrole au monde, capable de capturer le dioxyde de carbone. C'est une nouvelle étape de franchie vers la réalisation de ses objectifs en matière d'émissions de carbone. À Pékin, les explications de Cléa Broderst.
Pékin dévoile le premier navire au monde à produire du pétrole tout en capturant le dioxyde de carbone qu'il rejette. Et ce navire va plus loin en transformant la chaleur des gaz d'échappement en électricité, un double avantage pour l'environnement et l'efficacité énergétique. Les gaz passent dans un système de ventilation avant d'entrer dans une tour de lavage où des filtres absorbent les hydrocarbures et cela permet de réduire les émissions de carbone rejetées dans l'air. L'innovation ne s'arrête pas là. Cette technologie peut être installée sur des navires déjà en service et c'est une avancée qui pourrait accélérer la transition vers une industrie pétrolière offshore plus durable. Mais pour un réel impact, il faudra une adoption à grande échelle. L'ajout du captage de carbone à l'extraction pétrolière est une première en mer. Jusqu'ici, cette technique était surtout utilisée à terre. Appliquée aux plateformes offshore, elle pourrait grandement réduire les émissions du secteur. Et pour la Chine, premier émetteur de CO2, cette initiative s'inscrit dans son objectif de neutralité carbone d'ici 2060. Et c'est une avancée qui pourrait aussi inciter l'industrie pétrolière mondiale à suivre le mouvement sous la pression croissante pour limiter son empreinte environnementale. Cléa Broderst, Pékin, RFI.
Du cinéma à présent, à 15 jours des Oscars, Conclave et The Brutalist ont été récompensés au BAFTA hier. Égalité, 4 récompenses britanniques chacun.
Et du cinéma, on en parle aussi à Berlin, au 75e Festival International du Film. 19 longs métrages concourent pour l'Ours d'Or.
Cette année, ce sont 2 réalisatrices qui porteront les couleurs de la France, Léonore Serrail et Lucile Hadji-Halilovic. Son nouveau film, La Tour de Glace, fait le portrait d'une jeune orpheline qui tombe sous la coupe d'une star de cinéma, incarnée par Marion Cotillard. Rencontre à Berlin avec Elisabeth Le Quéret.
Christina, une star colérique et exigeante, tourne La Reine des Neiges, adaptation du célèbre conte d'Andersen. Elle n'épargne personne sur le plateau où chacun sait bien qu'elle est à l'image de son personnage, un cœur glacé, caché sous une beauté marmoréenne. Mais voilà que la diva, incarnée par Marion Cotillard, se prend soudainement d'affection pour une jeune figurante.
Il y a un rapport de fascination, de tentative de domination aussi, et puis d'une certaine violence. C'est une femme que je voyais tomber dans la fascination qu'elle a pour une autre personne qui lui rappelle qui elle a pu être quand elle était enfant. Et c'était assez intéressant d'expérimenter ça.
Ce récit d'emprise résonne avec l'époque, mais Lucile Hadji-Halilovic lui offre les atours d'un conte de fées à l'ancienne, avec paillettes et flocons de neige en coton. Un conte de fées où l'ogresse, finalement, ne serait pas celle qu'on croit. Elisabeth Le Quéret, Berlin. RFI.
Et voilà Grégoire, c'est la fin de ce journal.
Merci à vous, Karine Bellicha. Tout de suite, on passe au reste de l'actualité.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
En Haïti, la commune de Kainskov continue d'être la cible des gangs armés. Une nouvelle attaque ce dimanche dès l'aube a fait des morts et des blessés au sein des forces de l'ordre haïtiennes. Cette ville, autrefois paisible, située dans les hauteurs, ne cesse de subir l'assaut des gangs qui veulent à tout prix avoir le contrôle de cette commune. Et malgré tout, la police annonce avoir repris le contrôle de la situation, mais l'inquiétude est encore palpable. Correspondance de Peterson Luxama depuis Port-au-Prince.
Une nouvelle fois, les gangs armés ont frappé à Kainskov et semé le deuil dans le camp des des forces de l'ordre, un militaire des forces armées d'Haïti et deux agents de la brigade de sécurité des aires protégées ont perdu la vie lors de l'attaque des bandits. L'information a été confirmée par le ministère de la Défense via un communiqué de presse au cours de la journée. Il était environ 3h du matin, ce dimanche 16 février, quand les gangs armés ont lancé cette nouvelle offensive sanglante contre la commune, notamment dans la zone stratégique où sont installées les antennes de toutes les stations de radio et de télécommunications, communément appelées base d'hélico, selon le maire de la ville, Jean Massillon. Après des heures d'échange de tirs, les forces de l'ordre ont finalement repoussé les bandits, au dire de Lionel Lazare, porte-parole de la police nationale d'Haïti.
Pour le moment, la police reprend le contrôle.
Pour le moment, la police a repris le contrôle de la zone stratégique Téléco qui était occupée par les bandits armés. À présent, les interventions se poursuivent au niveau de Kenskov pour continuer à repousser les gangs.
Une annonce qui ne rassure pourtant pas les habitants de Kenskov qui restent inquiets. Pour eux, ces offensives répétées des gangs montrent que la menace est loin d'être éradiquée. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Anne-Claire Daguet, la presse haïtienne se fait l'écho de cette attaque. Le maire de Kenskov réclame une plus grande présence policière.
Oui, c'est à lire dans le Nouvelliste aujourd'hui. Jean Massillon était l'invité de la radio Magique 9 ce dimanche. Le maire de Kenskov estime qu'il est impératif d'avoir plus de forces de l'ordre sur place pour des opérations ciblées et des incursions pour déloger les bandits. Il a aussi confirmé qu'un membre de la brigade de sécurité des aires protégées était porté disparu. Nous tentons de le contacter, mais pour l'instant, nous n'avons aucune nouvelle de lui, a-t-il ajouté. Le Nouvelliste précise que Kenskov est un lieu stratégique, la base de l'armée installée dans les anciennes structures de la Téléco où se trouvent les antennes radio et télécommunications, devait être un pilier de résistance contre l'avancée des groupes armés dans la commune, poursuit le journal. Alter Press rappelle que 1600 personnes ont été contraintes de fuir à Kenskov et estime que les autorités de transition n'ont pris aucune mesure efficace pour protéger la population, malgré la connaissance de menaces d'attaques de gangs armés depuis le début du mois de janvier.
Merci à vous. On continue de parler d'Haïti, sur l'île. Avoir un membre de sa famille vivant à l'étranger, notamment aux États-Unis, c'est un grand espoir pour le reste de toute la famille. En janvier 2023, l'administration de Joe Biden avait mis en place le programme Parole humanitaire qui a permis à plus de 200 000 Haïtiens d'entrer légalement sur le sol américain. Aujourd'hui, Donald Trump menace d'annuler le statut de ces migrants et de les expulser en Haïti. Une annonce qui sème la terreur au sein de nombreuses familles haïtiennes qui comptaient énormément sur ces personnes pour faire vivre leur foyer, Ronel Paul.
Depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump en janvier dernier, la famille de cette enseignante qui préfère garder l'anonymat a la boule au ventre pour sa sœur entrer aux États-Unis en passant par la frontière mexicaine.
J'étais au téléphone avec mon père avant-hier au sujet de ces déportations massives. Il me disait que si on expulse sa fille, la famille allait faire un grand pas en arrière. Même si pour l'instant elle ne peut pas nous soutenir financièrement car elle n'a pas encore un bon travail, nous savons qu'un jour elle pourra aider tous les membres de la famille. Et donc, depuis que j'ai appris que ces personnes risquaient de se faire expulser, je ne suis pas tranquille du tout.
Et c'est la même inquiétude pour Oscar Innocent, un journaliste de Wanamante dans le nord-est d'Haïti. Début 2024, deux de ses sœurs et un cousin sont entrés aux États-Unis grâce au programme Biden. Les voir rentrer en Haïti dans ce contexte sécuritaire et économique difficile serait un coup de massue.
C'est vraiment difficile. Pas simplement pour moi, mais pour les autres familles, ça pourrait avoir un grand impact parce que c'est à cause de la situation qu'on laisse passer ou qu'on laisse aller ces trois enfants-là. Si ces trois enfants reviennent, on pourrait dire que la situation va être catastrophique. Parce que donc, dès que trois personnes laissent la famille pour aller ailleurs, on pense que ça pourrait arriver avec un bouquet de fleurs même après 10 ans. Mais s'ils reviennent en Haïti, et avant de trouver un travail, donc on a refoulé ces trois personnes-là, il y a de grands impacts, conséquences, et ça pourrait provoquer des pépineries qu'on ne trouve pas de l'argent pour les nourrir. Et ça pourrait provoquer d'autres problèmes, ça pourrait provoquer des problèmes mentaux même pour ces trois qui retournent en Haïti, et même pour les autres membres de ma famille.
D'autant plus que pour effectuer le voyage vers les États-Unis, toute la famille doit contribuer. Certains ont même vendu tous leurs biens pour acheter leur billet d'avion. Renvoyer ses quatre cousins et cousines qui ont pu entrer légalement aux États-Unis par le biais du programme humanitaire de l'administration Biden sans qu'ils aient eu le temps de reconstruire leur vie risque non seulement d'augmenter le taux de chômage, mais aussi le taux d'insécurité dans le pays, craint Angelo Lui, porte-parole de l'association culturelle Gomo. De souvenance.
Le pays fait face à un taux d'insécurité élevé et vous décidez de nous renvoyer d'autres personnes. Parmi ces personnes, on ne sait pas qui a de mauvaises intentions. Parce que lorsqu'une personne était dans un pays où il pouvait gagner de l'argent et que maintenant, elle ne le peut plus, tout le monde n'a pas la capacité de garder la tête haute. Le pays souffre énormément. Je souhaite que le président américain trouve une autre solution pour Haïti. Au lieu de renvoyer nos compatriotes, il serait mieux qu'il nous aide à rétablir la sécurité pour que les gens retrouvent la paix, pour que les gens trouvent à manger, pour que les gens puissent se soigner. C'est ce que nous voulons actuellement.
Angelo souhaite aussi la reprise du programme Parole humanitaire suspendu depuis l'arrivée de Donald Trump. En effet, quatre autres membres de sa famille ont déjà reçu leur autorisation de voyage, mais ne peuvent pas partir. Or, cette famille avait déjà tout vendu pour préparer leur départ. Ronel Paul, RFI.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Aux États-Unis, la commission pour l'efficacité gouvernementale dirigée par Elon Musk pourrait avoir accès à des données ultra sensibles du fisc selon la presse américaine.
Oui, c'est le Washington Post qui a révélé en premier cet accord qui permettrait aux employés de Dodge, cette commission créée au sein de l'administration Trump, l'accès aux informations confidentielles de millions de contribuables américains, mais aussi de millions d'entreprises, des informations extrêmement protégées. Cette demande inhabituelle, explique le journal, pourrait mettre des données sensibles entre les mains des personnes nommées par Trump, ce qui suscite une profonde inquiétude au sein de l'IRS, le fisc américain. Ce projet s'inscrit en effet dans la perspective de réduction massive des effectifs de l'administration fiscale. Selon le New York Times, 9000 employés de l'IRS pourraient être licenciés dès cette semaine.
Les États-Unis toujours, ou dans le nord de l'État de New York, la police a annoncé ce vendredi l'inculpation de 5 personnes pour le meurtre d'un jeune homme transgenre disparu depuis plusieurs mois. Les autorités ont indiqué que la victime aurait été torturée, Edouard Maille.
En 20 ans de carrière comme force de l'ordre, c'est un des crimes les plus atroces sur lequel j'ai enquêté, a dit un capitaine de la police lors d'une conférence de presse. La victime a subi, selon les autorités, des actes répétés de violence et de torture pendant 2 mois. Sam Norquist, un homme transgenre de 24 ans, originaire du Minnesota, a emménagé dans le nord de l'État de New York en septembre, où il résidait dans un motel. À partir de janvier, sa famille n'a plus de nouvelles et la police lance un avis de recherche le 9 février. Et jeudi dernier, son corps est retrouvé dans un champ. Le lendemain, 5 personnes âgées de 19 à 38 ans sont inculpées pour meurtre, dont au moins une qui résidait dans le même motel. Un crime plus que dépravé, selon le procureur. L'enquête est encore en cours. D'autres personnes pourraient être arrêtées. La police n'a pas précisé comment les accusés ont rencontré la victime, mais n'a pas écarté l'hypothèse d'un crime de haine, c'est-à-dire un crime à cause de la couleur de la peau, de la religion ou le genre auquel s'identifie la victime. Édouard Maille, Atlanta, RFI.
RFI Midi.
Grégoire Morelli.
En Argentine, les suites de ce que les journaux appellent le crypto-scandale et de ce qui pourrait être un premier épisode potentiellement délicat à gérer pour le président Milei, Anne.
Oui, après avoir fait vendredi la promotion d'une crypto-monnaie qui s'est ensuite effondrée, le président argentin est sous le feu des critiques et tente d'étouffer la crise, mais les preuves s'accumulent, explique Parina Dos. Plus de 100 plaintes ont été déposées, explique le journal, et plusieurs demandes de destitution au Congrès ont été formulées et une commission d'enquête pourrait être formée. L'implication des proches de Milei est aussi évoquée. Des témoins parlent de pots de vin et d'un système de réseau d'affaires élaboré par les frères du président et leurs associés, mais aussi du rôle de la sœur de Milei, Karina, citée dans le journal Clarín, qui parle du crypto-gate qui secoue l'Argentine. Celle-ci, Clarina, aurait œuvré en coulisses pour faire le lien entre les entrepreneurs du monde crypto et son frère lors de plusieurs réunions à l'hôtel Libertador. Pour le journal conservateur La Nación, cet épisode est un tremblement de terre qui laisse de nombreuses questions ouvertes. Seule certitude, conclut le journal, la parole présidentielle a été démolie en un temps record.
Au Venezuela, voisin à présent, la semaine dernière a démarré avec un débat public autour d'une réforme constitutionnelle à venir, annoncée par le président Nicolas Maduro. Quelques jours après son investiture, son élection est contestée au Venezuela et dans le monde entier. Quels sont donc les projets de l'actuel mandataire pour la Constitution? Les éléments de réponse, c'est avec notre correspondante Alice Campagnol.
Ampliar la démocratie
vénézuélienne. Élargir la démocratie vénézuélienne, la perfectionner, on pourrait l'améliorer grâce à notre expérience.
Un État neuf et amélioré, c'est la promesse de Nicolas Maduro avec cette réforme constitutionnelle. Mais pour le moment, peu de détails du texte ont été rendus publics. Ali Daniels est avocat, directeur de l'ONG Accès à la Justice.
C'est le premier problème. On ne sait pas sur quel sujet va porter la réforme constitutionnelle. Mais il y a tout de même des indices qui nous laissent deviner de quoi il va retourner. Trois lois ont été modifiées cette année et l'année dernière, des lois sur l'État communal. Ce que l'on comprend, c'est qu'il y a une intention de transférer des pouvoirs à la commune qui exercerait donc la véritable souveraineté populaire.
De tal modo que ese sea el verdadero ejercicio de la soberanía.
Un État communal où les pouvoirs sont transférés à de petites entités communautaires qui existent déjà au Venezuela. Elles sont chargées par exemple de distribuer le gaz ou l'aide alimentaire dans les quartiers populaires et de capter des votants pour le parti de gouvernement. Le rêve de Nicolas Maduro, étendre la commune à tous les niveaux de l'État. Mais derrière cette réforme constitutionnelle, Ali Daniels soupçonne des intentions peu avouables pour le gouvernement.
L'État communal va être utilisé comme excuse pour transférer la souveraineté du vote des citoyens à la commune. Et donc les élections vont devenir inutiles, insignifiantes. Il y a un précédent, la dernière Assemblée constituante, qui a été élue via une élection de second degré, c'est-à-dire que les députés n'ont pas été élus directement, mais via des représentants de secteur qui eux-mêmes ont choisi les constituants. Aujourd'hui, n'importe quelle élection pour le gouvernement, c'est un danger. Ils ne peuvent pas se confronter à un vote où leur pouvoir est en jeu.
Éviter le vote à tout prix pour ne pas revivre un scénario comme celui du 28 juillet dernier, l'élection présidentielle remportée officiellement par Nicolas Maduro, mais sur laquelle pèsent de lourds soupçons de fraude. Malgré tout, le président a annoncé un grand débat public autour de la réforme, mais dans la rue, à Caracas, on n'en a pas entendu parler.
J'en ai entendu parler, mais je ne sais pas sur quel sujet va porter la réforme.
Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Franchement, j'en sais rien.
Non. Non, je n'ai pas entendu parler de cette réforme constitutionnelle.
Et pour Ali Daniels, rien d'étonnant, le juriste croit peu en un véritable débat public.
N'importe quel propos, n'importe quelle phrase peut aujourd'hui justifier d'être arrêté. Il n'y a pas de débat public là où il n'y a pas de liberté d'expression. Donc, en réalité, ils réussissent, les cadres du Parti Socialiste Uni du Venezuela. Ils organisent des tables rondes où ils disent qu'ils sont tous d'accord et ils appellent ça une consultation populaire. De temps en temps, ils invitent des ONG pour donner leur avis, mais lors des réunions, il y a des membres des forces de sécurité de l'État. Qui va oser parler dans ces conditions?
Le texte de la réforme constitutionnelle devrait être soumis à un référendum cette année, mais aujourd'hui, au Venezuela, après l'élection présidentielle contestée, plus personne ne croit vraiment au vote. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Un reportage évidemment que vous pouvez retrouver sur notre site rfi.fr. On prend la direction du Brésil maintenant. Une vague de chaleur sans précédent pousse les autorités locales à déclencher le niveau d'alerte 4 sur 5, Anne.
Oui, le chalumeau est allumé au Brésil, titre au Globo. La région métropolitaine de Rio de Janeiro, notamment la capitale, est en ébullition. Le journal annonce 42 degrés attendus ce lundi. Pas de pluie prévue avant jeudi. Un supplice thermique poursuit au Globo qui est dû à plusieurs facteurs. La ville est un îlot urbain de chaleur, fait d'asphalte, d'émissions de véhicules, d'industrie et de bâtiments. L'anticyclone et les hautes pressions qui se trouvent au-dessus de la ville en ce moment sont piégées par la situation géographique de Rio, qui est un espace en contrebas entouré de montagnes. Quand tous ces éléments sont réunis, cela devient horrible et la ville est un véritable chaudron, estime un expert cité par le journal. La température ressentie peut être supérieure à 50 degrés et avec 80% d'humidité. Certaines répétitions pour le carnaval ont dû être être reportée ce dimanche.
Enfin, Anne, la chanteuse colombienne Shakira a été hospitalisée ce dimanche à Lima. Elle a même dû annuler son concert.
C'est une information à lire à la une de la presse péruvienne. La Repubblica explique que les fans de la chanteuse se faisaient une joie de voir ce concert unique prévu ce dimanche soir à Lima. Mais l'artiste a publié un communiqué dans l'après-midi pour annoncer son annulation en raison d'un grave problème abdominal. El Comercio explique de son côté que certaines données médicales de la chanteuse ont fuité sur les réseaux sociaux et que les ministères de la Justice et de la Santé ont fait paraître un communiqué parlant d'un délit très grave pouvant conduire à de lourdes amendes.
Anne Verdaguer pour ce tour de la presse américaine et sud-américaine. Il est presque 14h25 ici à Paris. RFI Midi, ça continue.
RFI Midi.
C'est l'heure de retrouver nos confrères d'outre-mer, la première, Benoît Ferrand, bien avant les Espagnols, les peuples premiers de la Caraïbe auraient été confrontés à des envahisseurs venus de l'Amérique du Sud.
Grâce à des études menées par un laboratoire américain d'Harvard aux États-Unis, un article publié dans la revue Nature révèle en effet ce scénario inédit d'une cohabitation entre guillemets entre les habitants des îles de la Caraïbe et certains de leurs voisins portés à l'aventure. Explication Christelle Martial, la première Guadeloupe.
L'équipe du généticien David Reich a pu extraire l'ADN de 174 individus exhumés dans différents sites allant du Venezuela aux Bahamas. Avant cela, une autre étude sur l'analyse du génome de 93 habitants de la Caraïbe avait permis de dresser un portrait des premières migrations dans la zone. Ainsi, les premiers colonisateurs dans les îles de la Caraïbe seraient donc un groupe d'agriculteurs potiers venus de la côte nord-est de l'Amérique du Sud. En évoluant d'île en île, ils ont, selon l'étude, rencontré des peuples chasseurs-cueilleurs arrivés, eux, sur place il y a 6000 à 7000 ans depuis les côtes de l'Amérique centrale. Les études génétiques montrent que par endroits, ces deux peuples ne se sont que très peu mélangés et finalement, les peuples des potiers auraient pris le dessus sur les chasseurs-cueilleurs. Ces études permettent également de connaître précisément le nombre d'individus qui composaient ces peuples avant l'arrivée des Espagnols en 1492. Les découvertes ADN démontrent également que pendant des siècles, ces peuples ont pu éviter la consanguinité, ce qui sous-tend des contacts fréquents entre les différentes îles. Les chercheurs le savent, ces avancées technologiques vont permettre de révéler une autre histoire de la Caraïbe qui devrait s'appuyer sur la diversité génétique, mais il semble que ce ne soit que le début.
Retour à l'actualité du 21e siècle avec Air Caraïbes qui renforce sa liaison entre la Guadeloupe et Saint-Martin. Un vol supplémentaire de Pointe-à-Pitre à Grand-Case, mais pour en profiter, il faudra se lever tôt. Colette Borda.
C'est à présent le tout premier vol au départ de Pointe-à-Pitre pour Grand-Case, dès 7h du matin, du lundi au vendredi. Air Caraïbes coiffe ainsi au poteau Air Antilles qui propose une liaison 50 minutes plus tard. Cette rotation sera disponible à partir du 24 février. La compagnie indique vouloir améliorer par ce biais la connectivité régionale, au moyen désormais de 4 ATR de 72 places, dont un appareil dernier cri qui vient renforcer la flotte. Ce sont ainsi 4 vols quotidiens qui vont être affectés sur cette ligne un temps problématique en termes d'offres. À travers cette politique commerciale, Air Caraïbes entend s'imposer comme un acteur central aux Antilles en matière de transport aérien. Quid toutefois des tarifs sur cette liaison? Il varie entre 300 et 500 euros selon la période et c'est Air Antilles qui affiche pour l'instant les meilleurs prix. Pour rappel, Air France, elle dessert l'aéroport de Juliana en partie hollandaise.
Bon après-midi Grégoire, à demain.
Merci, bon après-midi à vous aussi Benoît Ferrand. Et vous l'entendez, on termine en musique avec Israël Vibration, légende de la musique reggae. Ce morceau Wake Up, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Et cet extrait de reggae music Never Dies.
Wake up, wake up. Another day has come. Yesterday is gone. So we keep going on. Wake up, wake up. Go wash your face so you can see more clearly what a gwan in a the place. Wake up, wake up. So much things to do in order to make it better. That is up for us to do. Oh yeah, now. Nah. Man and woman have them picnic to go. Meanwhile, the farmer man, I
have is handful of seeds to sow. Can you see? Look around you. Do you see what is taking place? So much destruction, and that's all it takes to lose your space. Instead of fussing and fighting, what about some conscious reasoning? Biological called philosophy, humanitarian intelligence will be your defense against all intruders that try to break through your confidence from the top of the mountain.
Israel Vibration, Wake Up, extrait de Reggae Music, Never Dies, Afrique, RFI Midi. Ça touche à sa fin. À la réalisation aujourd'hui, c'était Yann Eligouin, la rédaction en chef Emmanuel Klotz. Moi, je vous dis à demain.
Yesterday is gone, so we keep going on. Wake up, wake up. Go and wash your face, so you can see more clearly.